With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour parler de nouveau de l'actualité de la Formule 1 une dernière fois cette saison. Ensuite on va rentrer dans ce long hiver, oh, ça va faire du bien de faire une pause quand même Stéphane, un tout petit peu.
Oui, mais un bonus track pour finir.
Exactement, avec un monsieur qui va nous emmener alors vraiment là dans les coulisses. On va parler de contrat, de gestion de pilote avec Didier Coton, Stéphane, qui est notre invité aujourd'hui.
L'agent de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. Bottas passé par Mercedes. Et Didier Coton connaît très très bien cet environnement du paddock puisqu'il a travaillé avec des très grands pilotes. Je citerai Mika Hakkinen, Lewis Hamilton. Il a été leur agent, en tous les cas, il a travaillé avec eux pendant certaines périodes. Et il a aussi Louis Duval dans son écurie, je dirais. Paul Di Resta, des pilotes officiels Peugeot aux 24 Heures du Mans. C'est quelqu'un qui est assez large et qui a un regard sur les jeunes pilotes. Et on va voir, je suis sûr qu'il va nous dire que c'est être agent aujourd'hui en Formule 1, c'est être très attentif à l'évolution, à l'environnement, à tout ce qui est créé autour d'un pilote pour lui permettre de bien performer.
Allez, c'est parti. On a des dizaines de questions à vous poser. On aimerait bien comprendre un petit peu plus. D'abord, c'est quoi le métier d'agent de pilote ? Parce qu'on a entendu George Russell à l'arrivée du Grand Prix du Brésil. Dans les remerciements qu'il a fait, il a remercié son agent. Alors, on se dit vraiment, ça doit être important comme job.
D'abord, je veux dire bonjour à tous vos auditeurs, parce que ça fait, c'est quand même, c'est la première chose à faire. Et dire que je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Pour venir tout de suite à la réponse à cette première question, pourquoi Georges a dit ça ? Parce que dans l'environnement d'un pilote, il y a en dehors de l'écurie un groupe de personnes qui vont l'aider à avancer dans sa carrière, qui vont l'aider à progresser dans son métier. Et c'est bien qu'il l'ait reconnu parce que disait à l'époque Christian Conzen, nous sommes les travailleurs de l'ombre.
Christian Conzen, qui était le patron de la filière Elf, si je ne m'abuse.
De Renault.
De Renault, Sport. Oui, pardon. Oui.
Et le directeur général de Renault Sport.
Voilà.
Tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes le manager de Valtteri Bottas en Formule 1, mais pas seulement. Et vous avez aussi suivi de près la carrière, l'évolution de grands pilotes en Formule 1.
Dans ma carrière, j'ai travaillé avec de très grands pilotes. Ils ont tous été très grands, d'ailleurs, à leur façon. J'ai travaillé, et je travaille toujours, enfin, j'ai travaillé 11 ans avec Olivier Panis quand Olivier était en activité. Aujourd'hui, Olivier est mon associé dans une partie du sport automobile. Donc, on a continué l'histoire et la pré-carrière ensemble, ce qui est bien. J'ai travaillé avec un champion du monde comme Mika Hakkinen, qui est quelqu'un de très spécial et d'extrêmement talentueux. J'ai eu l'occasion de collaborer avec Lewis Hamilton pendant un an. J'ai travaillé avec des gens comme Alex Wurz. Je travaille aujourd'hui avec Paul Di Resta, en dehors de la Formule 1. Je travaille avec Loïc Duval, qui me fait grand plaisir, parce que c'est un pilote exceptionnel. Et encore quelques jeunes qui montent, mais en dehors de la monoplace. Donc, il y a une variété de personnages, de nationalités, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue avec Valtteri Bottas, qui est également aidé par Mika Hakkinen sur ce dossier.
Comment ça se passe en ce moment pour justement un pilote comme Valtteri Bottas ? Qui avait plutôt bien débuté la saison, c'est plus compliqué. C'est des choses dont vous parlez, vous, avec lui, en tant qu'agent, ou ça, c'est dans un domaine que vous laissez complètement de côté ?
Alors, pour traduire, Gilles, ce que tu dis en chiffres, au cœur de la saison, c'est 9 Grands Prix sans points, et puis là, 2 top 10 coup sur coup. Alors, quand je parle de oui. tous ces grands prix sans points, il y a 6 abandons quand même aussi. Donc, ça ne doit pas être facile à gérer.
Valtteri est un pilote qui a de l'expérience. C'est un. Deux, c'est un battant. C'est un guerrier. Donc, il ne va pas se laisser déstabiliser pour autant. On en parle, oui, parce que c'est important de pouvoir avoir ce genre de discussion et discerner si le pilote perd un peu sa motivation ou pas, parce que c'est quelque chose qui est très facile de faire, de ne plus avoir cette motivation. On ne s'en rend pas compte. Le pilote arrive à ne pas s'en rendre compte. Donc, c'est en discutant avec lui qu'on parvient à voir s'il est toujours sur le ballon ou pas. Ce sont des discussions qui sont tout à fait classiques. Des discussions de fond dans lesquelles personnellement je n'interviens pas au niveau technique. On essaie de dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. C'est une discussion assez ouverte. De là à aller lui conseiller ce qu'il faut faire pour changer quand ça ne se passe pas, il y a une grosse différence. Donc c'est vraiment une discussion de fond qui va passer sur ses états d'esprit, sur son humeur, sur sa motivation. C'est des questions directes. Tu l'as, tu l'as pas. Il va dire oui, je suis fatigué. Non, ça m'énerve. Comme je dis, il a beaucoup d'expérience. Il vient quand même d'une écurie de pointe. Il est là en tant que pilote de référence et en tant que pilote qui doit aider à aller de l'avant avec l'écurie. Donc, son rôle aussi, c'est de rester fort et c'est de rester prêt. Le jour où, comme les deux derniers Grands Prix, l'écurie lui donne une voiture qui lui permet d'aller chercher ses points, mission à laquelle il n'a pas failli ni au Mexique ni ici.
Alors vous dites rester fort, ça veut dire parfois aussi gérer des moments délicats, de frustration, de déception. La Russie 2018, concrètement, c'est Mercedes passe une consigne. Valtteri doit laisser sa victoire à Lewis, si je me souviens bien. Comment est-ce qu'il interprète ça, Valtteri? Et comment est-ce que vous entrez un petit peu en connexion avec Toto Wolff pour dire, est-ce que ça va recommencer? Une fois ça va, c'est bon.
C'est sûr que pour le pilote, que ce soit Valtteri ou n'importe quel autre pilote sur le plateau, ne pas avoir une énorme frustration, une tristesse, une désillusion, ça veut dire que le pilote s'en fout. N'importe quel pilote aurait des sentiments extrêmement négatifs. Mais encore une fois, il faut faire très vite fi et abstraction, parce qu'il faut quand même se rappeler, et toutes les écuries le rappellent à leur pilote. Je pense qu'il y a encore eu quelques exemples en fin de course hier, qui rappellent quand même au pilote qu'on court pour la marque, les sponsors, et on court pour l'écurie. C'est ce qui compte pour l'écurie d'abord. Donc, il faut s'en faire une raison. On se dit, ça ne m'arrivera jamais. Le jour où ça vous arrive et le jour où le chef d'écurie prend le micro pour vous dire, il faut laisser passer ton coéquipier, il faut bien réfléchir et très très vite à 340 km/h, comment on va réagir.
Là, on sait que Audi va s'engager donc et racheter petit à petit l'équipe Sauber, donc autrement dit dans laquelle roule Valtteri Bottas en ce moment. Comment est-ce que c'est vécu par votre protégé? Est-ce que c'est une incroyable opportunité ou est-ce qu'il y a quand même un risque que Audi arrive avec ses pilotes et que finalement Valtteri reste sur le carreau?
Alors, il y a deux volets à cette réponse. La première, je vais reprendre un peu ce que Frédéric Vasseur a expliqué. On parle de 2026, c'est dans 4 ans. Il y a un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Mais c'est sûr, pour répondre au deuxième volet, l'opportunité de l'arrivée d'un constructeur comme Audi, qui a énormément d'expérience dans le monde du sport automobile, est une opportunité qu'il faudra peut-être essayer de saisir, oui.
Parce que ces constructeurs-là recherchent de l'expérience. Audi a manifesté déjà un intérêt pour Carlos Sainz, parce qu'il est passé chez Renault, chez McLaren, il est chez Ferrari. Tout ça, c'est une somme de savoir sur l'organisation d'un grand team. Valtteri aussi a fait 5 ans, je crois, chez Mercedes. Donc ça a du poids, ça a de la valeur. c'est un argument fort pour vous?
Je pense, on le voit au jour d'aujourd'hui sur les, sur le, enfin, sur les, sur le plateau pilote. Les pilotes parviennent à rester assez tard dans leur carrière à pouvoir conduire. On va prendre l'exemple de Lewis, on va prendre l'exemple de Fernando. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que leur valeur d'expérience à un prix qui est incalculable. Quand on voit toutes les sommes dépensées pour faire de la simulation, pour faire du développement, et aujourd'hui tout ça est limité de par le COSCAP, c'est sûr que l'arrivée d'un pilote qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de kilomètres, beaucoup de grands prix, va être définitivement une énorme valeur ajoutée dans le programme qui sera mis en place.
J'aimerais bien qu'on évoque avec vous, Didier Coton, l'évolution dans le temps des contrats qui lient les pilotes avec leurs équipes. Et je vous demanderai votre avis d'ici quelques minutes sur ce qui s'est passé entre Alpine et Oscar Piastri. Mais est-ce que ça a changé le travail que vous faites aujourd'hui avec les pilotes? J'aimerais bien savoir, je ne sais pas, si il y a 20 ans, les contrats étaient aussi volumineux qu'ils le sont aujourd'hui entre un pilote et une équipe.
Pour moi, ça devrait représenter 4 pages, hein, je vous le dis. Mais il y a tellement de paramètres à prendre en ligne de compte, que ce soit en responsabilité, que ce soit au niveau marketing, que ce soit représentation. J'ai eu dans ma carrière l'opportunité de lire, parce que j'ai eu un pilote qui était pilote de réserve chez Ferrari. Les contrats chez Ferrari sont très, très volumineux. Pourquoi? Parce que ici, c'est la marque qui doit être protégée également. Le Cavallino, c'est une des parcs les plus fameuses au monde. Donc, ça ne se laisse pas manipuler n'importe comment. Ça doit être protégé à tous les niveaux, que ça soit dans les réseaux sociaux, que ça soit par-ci, que ça soit par-là. Donc, ça demande une accumulation de clauses de plus en plus compliquées dans les contrats. Est-ce que les contrats ont énormément changé par rapport à il y a une trentaine d'années quand j'ai commencé? Sur le fond, non. Le contrat est une réflexion de ce que vous avez négocié. Alors, c'est sûr que si vous négociez beaucoup de points, vous allez avoir un gros contrat. Si vous faites ça simplement, on serre la main et on continue tranquillement, ça va être relativement simple. Mais sur la base, les contrats sont pratiquement les mêmes. Il faut simplement, vous en tant qu'agent et avec votre pilote, être bien sûr que tout ce que vous désirez qu'il soit dans le contrat, il soit clairement marqué et que vous n'oubliez pas des petits points qui peuvent être importants.
Alors j'en viens justement à une année un petit peu complexe que vous avez effleuré, votre collaboration avec Lewis Hamilton, c'est en 2012, avec McLaren. Et si on a bien compris, vous étiez en train d'essayer de faire le lien entre McLaren, ou le préserver, ce lien entre McLaren et Lewis. Lewis est en fin de contrat. Et il avait des envies d'ailleurs, et il avait ce qu'on avait compris, c'est qu'il avait des désirs personnels, c'est-à-dire d'afficher des sponsors sur sa combinaison, d'avoir ses propres sponsors, d'avoir un petit peu plus de temps pour lui, moins de temps à donner pour l'écurie. Et dans cette discussion, Lewis avait dit, bon, Didier négocie beaucoup pour McLaren, mais je ne m'y retrouve pas. Et bon, le fait est qu'il est parti chez Mercedes. C'est un point crucial, en fait, où quand on a un super pilote qui devient une star, qui demande d'autres choses, finalement, et là, on rentre sur des territoires inconnus.
Territoire, pourquoi vous dites territoire inconnu?
Parce que il est dans des sphères où, après, il a signé avec une organisation de management qui appartenait au monde du spectacle, et ensuite, il est devenu son propre manager. Ça veut dire qu'il était en train d'inventer peut-être quelque chose d'autre, d'aller vers quelque chose d'autre qui sortait un petit peu du schéma classique. Et en tous les cas, il voulait des choses pour lui qui étaient certainement difficiles à accepter aussi du point de vue de McLaren, que vous connaissiez bien.
Je vais faire deux pas en arrière parce qu'il y a un petit méli-mélo de tout. En 2012, j'ai collaboré avec Lewis simplement parce qu'il avait rejoint comme vous l'avez très bien dit, une organisation de management qui faisait partie du spectacle, de la télévision d'ailleurs, et qui n'avait pas d'expérience dans le sport automobile. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de négocier, parce qu'ils ont toujours très bien fait ça. Par contre, dans le journalier, dans la façon de suivre une carrière, etc., c'était une inconnue. Et McLaren avait, à l'époque, Martin Whitmarsh avait émis le souhait que Lewis soit aidé pendant la saison avec quelqu'un qui connaisse bien et le système McLaren et le système F1. Donc, en fait, j'ai consulté pour cette société de management et pas directement pour Lewis. Donc, c'est pour ça que j'ai... Et en fait, dans les négociations qu'il y a eu à l'époque afin que Lewis reste ou parte de chez McLaren, n'ont rien à voir avec moi. C'est la société de management qui était liée à Lewis qui s'en est occupé. Ils m'ont demandé mon opinion, j'aurais donné mon opinion, et puis ça s'est arrêté là. Eux ont fait le reste, ce n'était pas à moi de m'impliquer là-dedans.
J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de pages sur ce contrat. moi, je parle en chiffres pour que ça parle bien aux gens. Genre, dans votre carrière, c'est quoi le nombre de pages du plus petit contrat que vous ayez signé et le nombre de pages du plus gros contrat?
Je crois que le plus petit doit faire une soixantaine de pages.
Ah, quand même.
Il y a des annexes avec des dessins, des trucs. Des trucs difficiles à lire.
Je pose un cas concret qui est arrivé en 2018 avec l'introduction du halo. Ce n'était pas la solution miracle, mais on a évité beaucoup d'accidents. Ça réduit cette notion de peur ultime, de l'accident ultime, on va dire, qui n'a pas été évité. Pour certains cas, on pense au malheureux Antoine Hubert. Mais est-ce que ça signifie qu'à partir de cette époque-là, les contrats d'assurance que vous préconisez pour un pilote ont changé, il y avait moins de risques? Et qu'est-ce qu'on assure aujourd'hui quand on est agent pour un pilote? Son intégrité physique, ça fait partie des choses qu'il faut couvrir, le risque d'une fin de carrière parce qu'on s'est cassé une cheville ou une main, quelque chose. On pense aussi au cas de Robert Kubica, bon, qui est un petit peu différent, qui est aussi assez extrême.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois que ce qui est très bien d'ailleurs, et c'est pour tous les sportifs, quels qu'ils soient, de n'importe quel sport, l'assurance est un costume qu'on peut se faire tailler sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut tout assurer, vous deux, on peut assurer votre voix. Le jour où vous n'en avez plus, ben, vous toucherez un capital que vous avez assuré parce que vous ne pouvez plus assurer votre métier.
Donc, ça, on vous rappelle ça. Après.
Oui. donc, ce qui veut dire ici, je le dis parce que je sais qu'il y a peut-être des jeunes pilotes qui nous écoutent, il ne faut pas hésiter à être très pointilleux avec son assureur et très précis sur ce qu'on veut assurer. Parce qu'on peut assurer l'invalidité permanente, on peut assurer l'invalidité temporaire, c'est-à-dire que je me casse une jambe mais je reviens. La permanente, c'est je perds un membre, je ne peux pas revenir, je ne peux plus faire mon sport. On peut assurer uniquement le médical, on peut assurer uniquement les voyages, on peut tout assurer. Le fait que le halo soit là, personnellement, je n'ai pas vu de grosses différences au niveau de la partie coût assurance à ce moment-là et au jour d'aujourd'hui. On voit l'accident de Romain, c'est sûr que le halo n'aurait pas été là, il aurait une clause de son assurance la plus pénible qui aurait été déclenchée. Le halo apporte énormément de choses, c'est un outil qui a été, ou un élément de la voiture qui a été critiqué. Je dois dire que quand ils l'ont montré au début, personnellement j'ai trouvé ça très moche.
Comme tout le monde.
Ça l'est toujours, mais c'est très utile.
L'aspect design et l'aspect esthétique ne doit même pas être pris en considération à partir du moment où la partie sécuritaire est 100 fois plus importante, 1000 fois plus importante.
On est bien d'accord. Si on prend un autre cas concret, j'aimerais bien avoir votre avis sur votre lecture de ce qui s'est passé entre Oscar Piastri et Alpine. On sait que c'est Marc Webber, l'ancien pilote, qui s'occupe de Oscar Piastri. Est-ce que vous avez compris ? J'aimerais bien qu'on essaye de décrypter un petit peu la logique qui peut avoir poussé celui qui conseille Oscar Piastri à lui dire « Allez, on abandonne la filière Alpine, on signe chez McLaren ». Ce n'est pas une question de dire « Qui est le gentil, qui est le méchant ?» J'aimerais bien avoir, vous, votre avis d'agent, de pilote, pour essayer de comprendre finalement quel a été le processus de réflexion de Marc Webber et de Oscar Piastri pour aller... tourner le dos à Alpine et aller chez McLaren.
Je vais essayer de ne pas jouer la langue de bois, mais c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'il faut être impliqué dans le dossier à 100% et connaître les tenants et les aboutissants, connaître les différents niveaux de discussion qui ont eu lieu de chaque côté, de voir comment est arrivé l'appel du pied de McLaren ou comment... la partie Piastri est arrivée en discussion avec McLaren. J'estime qu'à partir du moment où un constructeur comme Alpine a fait le maximum pour développer le pilote, pour le soutenir, pour l'amener aux portes de la F1, pour lui faire faire des dizaines et des centaines de kilomètres, j'estime que la moindre des choses, avant de prendre une décision d'aller autre part, c'est de dire, les gars, on voudrait se rasseoir parce que il faut qu'on avance, mais partir sans rien dire, c'est pas mon style.
Et Toto Wolff a dit, la conclusion de tout ça, c'est que je vais embaucher plus de gens au service juridique pour faire des contrats aussi pour les jeunes pilotes, pour les verrouiller, de sorte qu'ils ne sortent pas d'une filière comme ça et qu'ils aillent voir ailleurs, quoi. Ils ont je ne sais plus combien de millions d'euros à coûter Piastri à Alpine pour faire monter un pilote comme ça. De toute façon, c'est au moins 10 millions. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais ça coûte très cher.
Faire monter un jeune pilote, si on part de la première année en monoplace jusqu'au port de la F1, disons fin F2, c'est un budget qui est extrêmement conséquent. On va estimer entre 7,5 et 9 millions. Donc, d'accord. C'est sûr. Alors, après ça, j'aime bien ce que dit Toto. Moi, je veux bien qu'il me donne tous les contrats du monde en disant « tu ne pourras pas partir, tu pourras faire ça ». Je veux bien, mais alors tu payes. S'il y a une partie extérieure qui participe, je pense que la balance doit être bien équilibrée parce que sinon, c'est trop facile. C'est moi qui ai le contrat, mais c'est vous qui payez. Donc, non, c'est le contraire. Si je paye, laisse-moi faire un peu le contrat que je veux. Si c'est vous qui payez, vous faites ce que vous voulez. Il ne faut pas se laisser faire non plus là-dedans. Donc, dans l'affaire Piastri, honnêtement, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. J'en ai entendu beaucoup. Moi, je dis simplement, Alpine a fait un superbe travail en tant qu'académie pour monter ce pilote là où il est arrivé. Et ils ont joué, je pense, les yeux fermés et en confiance avec le management. Après ça, je pense que le management de Piastri se doit de justifier sa décision. Alpine a fait ce qu'il fallait, je pense.
Alors, il y a d'autres pilotes qui ont une démarche différente. Alors, on parle de superstars, hein. Vettel, Hamilton, qui aujourd'hui n'ont pas d'agent. On se souvient d'Hamilton qui avait décidé en fait, de mener ses propres affaires et qui était dans les termes juridiques et qui disait sur les Grands Prix « Ce soir, je vais encore lire 3 pages de termes juridiques parce que j'y comprends rien, il faut que je me fasse expliquer tout ça. » Et ça a duré des mois. Et au bout d'un certain temps, il a signé son propre contrat tout seul. Ça veut dire se détacher vraiment des conseils d'un agent. Est-ce que des gens comme Vettel et Hamilton sont vraiment détachés de ça? Parce que ça paraît être un risque aussi.
C'est toujours un risque. Des contrats, j'en ai vu énormément dans les 30 dernières années et j'en ai négocié beaucoup. Je pense dire que je suis capable de lire un contrat et de le comprendre, de le négocier. Par contre, j'ai appris aussi par expérience qu'il faut toujours, toujours faire relire à un moment donné ce document par un professionnel. parce qu'il y a une virgule mal placée, il y a une phrase qu'on pense savoir ce qu'elle dit, mais en fait, elle dit tout à fait autre chose. Et là, il n'y a que les avocats de métier qui vont pouvoir vous aider à aller être certain que votre contrat est comme vous le pensez et pas autrement. Donc, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'une personne ou des pilotes comme Lewis et comme Sébastien sont capables de lire des contrats, ils sont capables de les comprendre. Ils vont les comprendre pourquoi? Parce que c'est eux qui ont négocié. Donc, ils vont retrouver dedans la structure de ce qu'ils ont voulu mettre en place. Mais comme j'ai dit, il y a d'autres clauses, il y a d'autres paragraphes, il y a d'autres virgules, il y a d'autres... Il y a plein d'éléments qui font que ça peut porter à confusion. Donc, encore petit conseil d'amis à tous les jeunes qui montent, même si un contrat fait 4 pages, fais-le relire par un homme de loi. Et personnellement, c'est ce que je conseille toujours à des pilotes avec qui on commence à travailler en disant, voilà, je t'explique le contrat qui est là, dans les lignes, pose-moi des questions. Avant de le signer, tu me fais un plaisir, tu vas chez un avocat. Pour être certain qu'il n'y a pas de malentendu, qu'on commence sur le bon pied. Donc, je suis pratiquement certain que les deux pilotes que vous mentionnez ont toujours avec eux un avocat qui vont relire leur contrat en dernière mouture.
Didier, on voulait parler avec vous aussi, on aurait des centaines de questions, mais il va falloir qu'on avance un petit peu sur les filières, mais plutôt par nationalité, parce que on l'évoquait avec vous, vous avez travaillé avec pas mal de Finlandais, quelques Brésiliens aussi, me semble-t-il, et alors, curieusement et tristement d'ailleurs, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on n'a plus de Brésiliens en Formule 1, on n'a plus d'Italiens. On a un Finlandais que vous avez en contrat, mais qui n'est plus de toute première jeunesse non plus. Qu'est-ce qui se passe avec ces filières? J'imagine que les cas sont différents. On vient de quitter le Brésil. Est-ce que vous auriez une explication pour nous dire comment ça se fait que depuis Felipe Massa, il n'y a plus de pilote de Brésilien? J'exclus Enzo Fittipaldi qui a fait 2 Grands Prix en remplacement de Romain Grosjean dans les conditions qu'on sait.
Alors le Brésil a quand même un champion de Formule 2, mais il ne trouve pas de place. Donc là, c'est un petit peu la quadrature du cercle.
Parle voilà, Philippe, il y en a un exactement qui ne trouve pas de place, mais enfin, qui est quand même aux portes de la F1, il faut le dire.
Il sera pilote de réserve, je crois, l'année prochaine.
Voilà, qui sera pilote de réserve. Un de mes amis et également manager, qui est Nicolas Todd, a un jeune Brésilien prometteur.
Caio Colette.
On ne peut pas vraiment prédire les filières par nationalité. Ça va dépendre des périodes. Il y a une période où il y aura dans le kart énormément de Brésiliens ou d'Italiens, et cette vague va monter ensemble jusqu'à un certain point. Ça va se dégraisser, on va en retrouver 2 ou 3 aux portes de la F1 ou 4. Et par contre, de l'autre côté, il y aura plus de Français. C'est le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du Français beaucoup, ce qui est bien. On a des gens comme Pierre Gasly, on a des gens comme Ocon, on a Théo Pourchaire qui est aux portes. C'est fabuleux. Mais ça fait très longtemps qu'on n'avait plus eu de Français. Il n'y a pas vraiment de raison bien spécifique pourquoi à un moment donné j'ai une telle nationalité et pas l'autre. C'est une question de vague, c'est une question de moment. En Italie, il y a la filière italienne est très très faible.
Oui, et pourtant il y a Ferrari et il y a une histoire de la Formule 1 en Italie. Je pose ma question autrement. Est-ce que des nationalités comme les Finlandais, comme les Brésiliens, n'étaient pas des pilotes un petit peu plus instinctifs et qu'aujourd'hui, on cherche avant tout des techniciens?
Je pense qu'aujourd'hui, les écuries recherchent un pilote qui va avoir, qui soit, d'abord qui doit être très rapide, mais qui sera également un technicien. Vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est que dans la F1 moderne, les écuries demandent un pilote qui est capable de pouvoir être très rapide à 80% en utilisant son cerveau à 80% et garder 20% pour, au milieu de la course, pouvoir établir des stratégies, discuter avec son ingénieur et éventuellement regarder ce qui se passe à la télé au bout de la ligne droite. Donc, oui, mais c'est ça aujourd'hui. Avoir uniquement le pied droit qui est lourd, est un paramètre très important, c'est sûr, mais il faut avoir aussi un pilote qui est capable de gérer et d'utiliser ses capacités intellectuelles et mentales pour, en plein moment de course relativement à l'empoignade, qui va pouvoir justement réagir et discuter avec son écurie, discuter avec son ingénieur et prendre des décisions dans des situations comme on a vu hier, où à 340 km/h, moi je suis gelé sur mon volant, je regarde tout droit.
Hein. Alors il y a eu deux événements aussi quand même qui ont modifié le paysage, je dirais, du paddock. En 2017, c'est le départ forcé de Bernier Ecclestone, qui se faisait fort d'avoir un Brésilien sur la grille tous les ans, et qui allait chercher des sponsors, qui organisait les soutiens pour un pilote, parce que lui, son but, c'était d'avoir une représentation pour les télévisions, pour la télévision brésilienne, parce que il commercialise les droits auprès des télévisions. Donc ça, il était très très attentif à ça. Et donc, depuis 2017, il a assuré la présence, je crois, c'était Felipe Nasser, le dernier, en 2017, et puis plus rien,
Massa.
Ou presque. Massa, pardon. Voilà, Nasser, c'était un petit peu avant. Et puis, 2014, surtout, c'est la super licence, là, qui donne un droit d'entrée en Formule 1 si on obtient des résultats sur la piste. Et là, ça change tout, parce que votre travail, peut-être avant, c'était de repérer un pilote qui avait du potentiel et organiser un soutien autour de lui, de sponsors, concrètement, on va dire, pour arriver à la Formule 1. Et maintenant, le jeu s'est un petit peu renversé parce que vous êtes obligé de miser sur des jeunes, mais c'est le résultat en fin de saison qui va dire vraiment s'il peut monter. Et il y a des histoires qui s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas cette fameuse super licence. Et là, je crois que ça a organisé un écrémage, je dirais, différent.
Ce qui est très bien aussi parce qu'il faut pouvoir également aider les parents des jeunes pilotes à un moment donné, ce qui n'est pas facile, ça fait partie de notre métier, de dire stop. Stop, ça passera plus. Stop, ça sert à rien. Stop, ça coûte trop d'argent. Dans tous les jeunes pilotes avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours dit aux parents, voilà le plan sur 2 ans. Si au bout de la deuxième année, il n'est pas là, il rentre à la maison. C'est tout. Donc, ce qui se passe avec les points de super licence, moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a un moment donné où il faut être transparent et il faut se dire, on va peut-être pas arrêter le sport 2000, on va peut-être arrêter la filière monoplace et essayer de trouver une carrière autre part. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête vis-à-vis du pilote en disant, tu as des capacités pour faire ça, mais pas pour aller jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, être très bon en F1, c'est loin de ce qu'il faut pour y arriver. Aujourd'hui, pour être en F1, il faut être excellent. Et quand je dis excellent, il y a encore la marche pour être meilleur qu'excellent. Et on le voit sur les combats qui se passent pendant les courses au jour d'aujourd'hui. On voit la qualité et la référence des pilotes qui montent. C'est extraordinaire ce qui se passe. Donc, le fait d'avoir besoin de ces points de super licence, c'est un écrémage automatique, mais qui, à mon avis... Alors, après ça, il va falloir pouvoir avoir, pour être complet dans ce genre de jugement et dans ce genre de décision, un pilote peut très bien ne pas passer le résultat qu'on lui avait donné, simplement parce que, mécaniquement, sa saison était mauvaise. Donc là, il faut qu'il puisse être repêché pour continuer. Donc, il y a encore là une petite variation à avoir. Mais sur le principe de dire, tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu n'as pas tes points de super licence, basta, tu n'as pas tes points de super licence, passe à autre chose.
À propos de cette super licence, vous trouvez que ce système d'attribution de points est équilibré? Les pilotes américains se plaignent d'un manque de considération de la part de la FIA qui a organisé tout ce système, qui donne une priorité à la Formule 2, à la Formule 3. Est-ce que leurs griefs sont justifiés?
Compliqué pour moi de répondre. Je vais simplement dire, et je n'ai jamais conduit ni une F1 ni une voiture d'IndyCar, je pense qu'aujourd'hui, les voitures de F2 sont des voitures qui sont les plus proches de la F1. Donc, la valeur du point attribué doit être plus importante qu'une peut-être une autre série. Vous dites ça aux Américains, ils vont me chasser à coups de...
On ne leur dira pas.
Avec tout le respect pour ce que j'ai, pour ce qu'ils font, parce que c'est rouler en ovale aux vitesses où ils vont, faut aussi avoir le cœur bien accroché
Et
et
oui.
avoir beaucoup, beaucoup de talent.
Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Didier Coton, d'avoir répondu à nos questions dans Les Fous du Volant. Vous faites partie maintenant de la confrérie des Fous du Volant. On vous intronise.
C'est très gentil, ça m'a fait plaisir. À très vite, j'espère.
Oui, nous aussi.
Merci.
Merci bien, Didier.
Au revoir, à
Au revoir.
bientôt.
Bonne soirée.
Eh ben, comme toujours, à chaque fois qu'on a des invités dans Les Fous du Volant, je trouve ça passionnant. On s'est arrêté, je ne sais même pas combien de temps on a passé avec Didier Coton, mais on aurait pu faire le double. tranquillement,
Tout
il
à
te reste
fait.
encore 68 questions à poser, Stéphane, qu'on n'aura pas eu le temps de lui poser. C'est une belle façon de terminer cette saison 2022, je trouve.
Oui, parce que bon, un agent de pilote, c'est quelqu'un de discret et on était content de l'avoir pour ça, pour avoir un petit peu plus d'enseignement sur comment est-ce qu'on ressent dans l'entourage d'un pilote les aléas de la compétition, l'évolution, et puis quand on passe d'un statut d'espoir à un statut de pilote dans une grande écurie ou quand on fait le chemin inverse. Voilà ce qui arrive aussi. Mais bon, bah, Didier nous a raconté ça formidablement. C'était un éclairage encore utile qu'on voulait avoir et vous offrir depuis un certain temps.
Exactement, voilà un membre de plus dans la confrérie des fous du volant qui s'est bien agrandi en 2022. Eh ben, figurez-vous qu'on a bien l'intention de la faire encore croître en 2023. Ça va être le moment de vous donner rendez-vous maintenant hein, pour 2023. C'est pour ça qu'il faut absolument vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement le premier numéro de la saison 2023 sur votre smartphone ou votre tablette. Sans louper, parce qu'on va évidemment reprendre, je pense au moment des essais de pré-saison. On s'est régalé quand même pendant cette année 2022, même si ça a été très très différent de 2021, avec finalement un Max Verstappen au-dessus du lot. Mais on a quand même eu plein de choses à raconter.
Oui, parce que on est au début, je pense, de l'épopée Max Verstappen et Red Bull. Il a dit qu'il se voyait piloter jusqu'en 2028 et qu'au-delà, il n'était pas sûr,
oui,
hein,
ouais,
de piloter en Formule 1.
Bon, c'est
donc,
souvent ce que les jeunes pilotes disent, et puis après, une fois qu'ils arrivent devant la retraite, ils se disent bah, c'est quand même pas mal. Comme
non, mais il dit qu'il ne court pas après les records. Et là, je le crois,
oui. Lewis
même
Hamilton
plus
disait ça
que
et
Lewis
avant lui,
Hamilton,
Ayrton
parce que,
Senna.
Voilà, tout à fait. Mais non, on assiste à. Là, on a eu les années à Hamilton, et puis Verstappen prend le relais. On a clairement un crack qui fera partie de toute façon des grands, grands pilotes de l'histoire de la F1. Bon, bah, alors oui, il a remporté 15 Grands Prix, c'est
ouais.
comme ça. Mais. La F1 est une méritocratie, elle doit sanctionner, elle doit mettre en valeur les meilleurs. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à s'en plaindre. C'est peut-être un petit peu monotone, mais ça dit aussi où est-ce qu'il faut être. Ça place la barre pour les autres. Et puis on verra bien comment réagiront Mercedes et puis Ferrari en 2023.
Et puis nous, on est là justement pour venir briser la monotonie, vous dire ok, regardez, les caméras, elles ne vous montrent pas ça, mais il s'est passé ça et ça en coulisses. On va avoir tel invité, on va vous parler de ceci, on va vous parler de cela. On est là pour ça.
Oui, tout à fait. Et puis, je dirais qu'il y aura la Formule 1 l'an prochain. Et puis, on attend aussi dans l'univers des sports mécaniques, vraiment, ce centenaire des 24 Heures du Mans, ce nouvel âge d'or de
oui,
l'endurance qui va être
oui.
absolument fantastique. Et on mixera peut-être aussi un petit peu les deux. On aura des pilotes d'endurance qui sauront très bien nous parler de Formule 1 et de leur sport aussi, parce qu'on aime aussi, on adore l'endurance sur Eurosport.
Mélanger les univers. On va terminer en remerciant aussi tous ceux qui ont œuvré, alors que vous n'entendez pas sur notre podcast, hein. Marion, Sébastien, Anne, Quentin, Marco, Adrien, j'espère ne pas en oublier.
À la réalisation aujourd'hui.
Voilà, je suis à peu près convaincu qu'on va en oublier, en tout cas tous ceux qui travaillent dans la coulisse, parce qu'un podcast comme ça se fait pas, ça se fait pas simplement à deux. Merci à tout le monde. Rendez-vous de début 2023. Et puis d'ici là,
on coupe le contact.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.